Avem parlat del fer, parlem ara del papier, que va estre el succès de nostre missiu dinco a la fi. Anem parlat del papier amb la Lucille Bourachaud. Lucille Bourachaud, qui a treballé longtemps aux archives départementales et qui a publié dans une revue allemande un article quand même écrit en français sur les papeteries du Haut-Agenais. Article qui est à l'heure actuelle introuvable. On peut espérer qu'il sera réédité. J'ai donc interviewé Lucille Bourachaud et je lui ai posé la question traditionnelle pour commencer de savoir quelles étaient les sources qu'avait le chercheur en archive pour connaître ces papeteries d'avant la Révolution dans le Haut-Agenais.
Eh bien, les seuls documents dont nous disposions, ce sont les minutes notariales. Et comme ces minutes notariales ne remontent pratiquement pas au-delà de 1600, on ne peut pas faire remonter l'histoire de la papeterie dans nos régions au-delà de cette époque, bien qu'il soit fort probable que cette industrie soit plus ancienne. Mais là, nous n'avons absolument pas de bois fief, nous n'avons rien.
Aucune citation nulle part de...
Quelquefois de rares. Moi, mon attention a été attirée sur les papeteries par quelques papiers qui nous avaient été donnés par un monsieur Avezou, originaire de la vallée de la Lède, qui était archiviste de l'Isère. Et il nous a envoyé des papiers de famille, et c'est là que j'ai vu pour la première fois qu'il y avait une industrie papetière dans nos régions et qu'elle pouvait être intéressante.
Oui, on se rend compte aussi qu'il y a eu cette industrie papetière, puisqu'il y a des lieux encore qui s'appellent la papeterie, en particulier dans la vallée de la Lède. Je crois que ce qu'on peut dire aussi, c'est que, bon, à la suite de ces études que vous avez faites, vous avez publié un article qui malheureusement est très difficilement consultable par les gens qui habitent par ici. C'est même assez étonnant. Il a été publié dans quelles conditions, cet article ?
Eh bien, il a été publié par une association qui s'appelle l'Association internationale du papier, qui a son siège maintenant en Suisse, qui à l'époque avait son siège au musée Gutenberg à Mayence.
Et, en Allemagne ?
En Allemagne. Et ça a été publié dans une revue qui a un titre allemand, Papiergeschichte, c'est-à-dire Histoire du papier, mais qui est publiée en trois langues, français, anglais, allemand. Et ça a été publié en français par cette revue, par l'intermédiaire d'un libraire de Francfort-sur-le-Main qui s'appelait Kobe et qui était descendant de huguenots de la région et qui m'avait contacté justement pour sa généalogie.
Oui, est-ce qu'il n'y a pas... Là, nous allons parler un peu dans cette émission du contenu finalement de cet article, mais ceux qui voudraient avoir cet article, il n'y a pas d'espoir pour le moment, quoi. Il y a pas, vous n'envisagez pas qu'il soit édité ici, qu'on puisse se le procurer ?
Non, pour le moment, je ne vois pas qu'on puisse le rééditer. Et c'est bien dommage parce que beaucoup de gens me l'ont demandé et je n'ai pu fournir que des photocopies. On refait des photocopies de photocopies.
Bien. Cette industrie du papier donc, est assez ancienne. C'est quand même moins ancien que la sidérurgie parce que le papier, c'est historiquement, c'est relativement récent en Occident.
Disons que les premiers moulins à papier ont fonctionné dans la région de Troyes, je crois aux alentours de 1400. Dans la région, c'est à Couze qu'on les trouve, en Dordogne, qu'on les trouve entre 1450 et 1500, les premiers. Mais nous, nos documents ne permettent pas de remonter au-delà de 1597, première mention d'un moulin à papier non identifié qui s'appelle Cadaïs.
Cadaïs, si quelqu'un sait où ça se trouve... Qui nous le signale, ça doit pouvoir se retrouver. Oui, je crois qu'on sort un peu du thème local. Bon, avant 1200 ou 1300, c'était uniquement le parchemin qu'on utilisait.
Il y avait du papier fabriqué par les Arabes et qui remontait par l'Espagne et par l'Italie, où en Italie, on a dès le XIVe siècle, on a du papier.
Voilà. Alors, revenons donc aux papiers fabriqués dans la vallée de l'Allemagne et les vallées voisines. Pardon. Je crois que vers 1650, il y avait aussi, c'était comme les forges, il y avait une quantité importante de papeterie qu'on peut citer.
Eh bien, j'en ai repéré 13, plus celle de Cadaïs qui fait 14, et une 15e qui n'a fonctionné qu'au 19e siècle. Alors, dans la vallée de la Thèse, la toute petite vallée de la Thèse...
La Thèse, il faut préciser que c'est, quand on part de Fumel en remontant, en allant vers le Lot, c'est un petit affluent du Lot qui vient de Gourdon, peut-être, ou de Salviac, par là-haut, qui atterrit dans le Lot à Conda. Quoi.
Alors, en Quercy, il y avait une papeterie qui s'appelait Cavard, et en Agenais, il y avait l'Esquiba, l'Esquiba, puis ensuite, en descendant la thèse, de papeterie à Conda, sur la Lémance, Martiloc, Libos, et en remontant, toujours là, le Foulon, Pombier, qui est une des plus anciennes dont nous ayons trace.
Et qui est aussi une papeterie encore à l'heure actuelle.
Oui, la seule papeterie encore qui fonctionne, et où il y avait également une forge. Puis Ratier, plus au nord, nous avons Fonsalade.
Fonsalade, je crois qu'il se situe toujours sur l'Allemance, mais à la limite du Périgord, pratiquement.
Presque à la limite du Périgord, ainsi que le Souicial. Sur la Briolance, il y avait une papeterie à Blanquefort. Et enfin, sur la Lède, il y avait Majoulassy, le Moulin du Milieu qui existe encore comme filature, et la papeterie de Saint-Avit.
Oui. Je crois que c'est cette papeterie qui, à l'heure actuelle, s'appelle carrément la papeterie. Alors, on fabriquait du papier à partir de quoi et pour quelle raison une telle industrie s'était-elle localisée dans la région ?
Bien là, ça s'est localisé dans cette région en raison de la pureté des eaux et d'autre part le fait qu'il y avait, en raison des rivières, une certaine force motrice indispensable pour faire marcher les papeteries.
Oui, à l'époque, on fabriquait pas le papier à partir de pâtes provenant du bois.
Ah non, exclusivement à partir de chiffons. Et alors ces chiffons étaient triés par des ouvrières qu'on appelait les délisseuses. Ensuite, on les faisait pourrir dans des bassins remplis d'eau qu'on appelait les pourrissoirs. Puis cette pâte informe était mise dans des cuves en pierre où c'était martelé par un jeu de marteaux actionné par le courant de la rivière, des marteaux qui se levaient alternativement. Et qui était en bois avec une tête ferrée et qui déchiquetait littéralement ce chiffon pour en faire de la pâte à papier.
Et ensuite, on plongeait tout ça dans une cuve et on y plongeait un tamis qu'on soulevait et la partie solide restait sur ce tamis, quoi.
Oui, c'était l'opération la plus délicate parce qu'il fallait obtenir sur ce tamis de fil de cuivre dans un cadre de bois sur lequel d'ailleurs il y avait un dessin en fil de cuivre qui était le filigrane. Et alors il fallait répartir également l'épaisseur de la pâte à papier. Et ensuite,
sinon la feuille aurait été plus épaisse d'un côté que de l'autre.
Ah oui, ça c'était. Il y a eu des irrégularités fâcheuses. Et ensuite on reversait ça sur des feutres. Alors il y avait une feuille de papier, un feutre, une feuille de papier, un feutre, et ensuite, lorsque c'était égoutté, on pressait le tout sous une presse à bras.
Et puis on faisait sécher après, un peu comme du linge sur un fil ou...
Exactement, sur des fils qui étaient dans les étendoirs, c'est-à-dire la partie supérieure du moulin. Et ces étendoirs comportaient évidemment des ouvertures très nombreuses, un peu comme les séchoirs à tabac, si on veut, et où on faisait sécher ces feuilles de papier. Et ensuite, lorsqu'on voulait avoir du papier très fin, très joli, on le ponçait avec un galet très lisse, ou alors on le martelait tout doucement avec un marteau en bois pour obtenir une feuille plus plane, pour faire disparaître les irrégularités.
Pour revenir au filigrane, pour la recherche, c'est quelque chose de très utile parce que c'est un peu la signature du fabricant.
Oui, c'est la signature du fabricant. Il y a toute une technique pour quelquefois identifier, par exemple, la date ou l'origine d'un manuscrit ou d'ouvrage dont on n'a pas la date exacte de publication. Il y a des techniques très poussées avec des systèmes de radiographie qui permettent de comparer les filigranes et de faire des échelles de datation. On est arrivé comme ça à pouvoir dater un manuscrit à 2 ans près, à condition d'avoir suffisamment de relevés de filigranes. Il y en a par exemple pour la genêt, il y a le filigrane GB avec une main, c'est le filigrane des bardis de l'Esquiba par exemple, sur la thèse.
Oui, qui est une des familles de papetiers dont nous allons reparler. Et je me pose une question quand même, bon, est-ce que dans ce qu'on vient de citer, là, on se rend compte qu'au même endroit est citée une papeterie et une forge, alors comment ça pouvait coexister ?
Eh bien, c'était toujours la même chose, c'était la question de la force motrice lorsqu'on avait la chance d'avoir un barrage avec une dérivation d'un canal de dérivation d'eau, eh bien, ça représentait une force motrice. Et quelquefois, à l'origine, il y avait souvent un moulin à blé. Ce moulin à blé pouvait être transformé en papeterie et on pouvait créer à côté une forge. C'est le cas, par exemple, de Pombier, de Ratier, de Martiloc aussi, mais surtout Pombier et Ratier.